Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal. Jocelyne Moussa Oumpondé à la présentation.
Quelles précautions contre les monkeypox à l'approche de la rentrée scolaire? Les députés nationaux et ancien ministre de la Santé Jean-Jacques Mbungani appellent les parents, les responsables d'école et les enfants eux-mêmes à être vigilants. Le Parlement des jeunes dans la chefferie de Buito dénonce le renforcement des positions du 1-23 en hommes et armement dans tout l'espace occupé par ces rebelles, et cela malgré le cessez-le-feu et censé être respecté par tous. Notre invité, c'est Moïse Niarugabo, sénateur et député honoraire. Il demande justice pour les réfugiés congolais Banyamulenge, principalement des femmes et des enfants massacrés il y a 20 ans au camp de Gatumba au Burundi. Bonjour à tous. Sachez d'abord que plus de 200 personnes sont portées disparues. On compte une quarantaine de rescapés et trois corps sans vie repêchés. C'est le bilan provisoire du naufrage d'une embarcation en bois survenue dans la nuit de dimanche à lundi sur la rivière Lukeni, non loin de la cité de Tolo, dans les territoires de Koutou, province du Maïndombé. Selon Fidel Lizorongo, président de la société civile de Koutou, la baleinière en provenance de Oshwe pour Nyoki, transportée à son bord plus de 300 personnes. Le gouverneur du Maïndombé déplore ce énième accident et parle des mesures prises. Le Bankoso est au micro d'Irène Boma.
Le vrai problème, c'est toujours cette navigation nocturne et puis la surcharge. Donc ce sont là les éléments qui sont souvent la cause des naufrages, des embarcations non sécurisées, donc communément appelées les baleinières. En tant qu'autorité, nous allons prendre vraiment des mesures draconiennes et aussi proposer une alternative par rapport à cette situation, parce que nous devons avoir des embarcations sécurisées et je crois que c'est ce qui est vraiment prévu dans notre programme d'action. Donc nous allons le faire dans quelques mois, donc il y aura déjà des embarcations sécurisées. Mais au moins, il y a une équipe qui est diligentée, elle sera là, composée de membres des comités de sécurité provincial et qui va diligenter une enquête pour établir des responsabilités.
Parlons à présent de la lutte contre la maladie de monkeypox qui fait rage dans le pays. À l'approche de la rentrée scolaire, le député national et ancien ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbungani, s'adresse aux parents et aux responsables d'école. N'ayez pas peur, envoyez les enfants à l'école, mais restez vigilants, dit-il en substance. D'après lui, la vigilance doit rester de mise par toutes les parties, parents d'élèves, responsables d'école et les enfants eux-mêmes. Il ne faut pas envoyer un enfant à l'école lorsqu'il présente des boutons sur les corps, mais l'emmener à l'hôpital, indique-t-il. Il demande aussi aux enseignants de ne pas garder un tel enfant en classe, mais d'alerter les responsables sanitaires. On l'écoute dans cet extrait proposé par Peléki Pelamondo.
Cette maladie évolue en moyenne 1000 cas par semaine sur l'étendue de la République. Toutes les provinces ont au moins notifié un cas. Aujourd'hui, la maladie se retrouve dans plusieurs autres pays d'Afrique et également en Europe, à l'étranger. Moi, je viens ici interpeller notre population par rapport à la rentrée scolaire pour dire aux parents de rester calmes, mais de rester quand même vigilants. C'est-à-dire, il n'y a aucune inquiétude par rapport à la rentrée scolaire. Les enfants doivent normalement rentrer à l'école. J'aimerais vraiment clarifier l'opinion pour dire que les enfants doivent normalement rentrer à l'école sans problème. Il est appelé aux familles, au corps professoral et aux élèves eux-mêmes d'être prudents. C'est-à-dire, dès lors que vous avez des signes interpellants, dès lors que l'enfant présente la température, dès lors que l'enfant présente des boutons, donc des éruptions cutanées qui peuvent être vésiculopapuleuses, il faut emmener cet enfant ou cette personne auprès des autorités sanitaires, auprès des acteurs de la santé, à l'hôpital ou dans le centre de santé. Il faudrait, en tout cas, privilégier d'abord de soigner un enfant qui présente des symptômes, des éruptions cutanées et ne pas emmener cet enfant à l'école.
Et à moins de 2 semaines de la rentrée scolaire, l'engouement n'est pas au rendez-vous dans certains marchés de Kinshasa, selon les vendeurs des fournitures scolaires. Cette situation est consécutive, selon les mêmes vendeurs, au fait que plusieurs écoles vendent les uniformes et certaines fournitures scolaires. Du côté des parents, plusieurs disent, comme à chaque rentrée scolaire, n'est pas avoir les moyens et ne savent donc pas à quel sens se vouer. Reportage Plamedi Mbiavanga.
Dans plusieurs marchés de Kinshasa, les parents que nous avons rencontrés se plaignent de la vie chère. La faute au taux instable du dollar qui ne leur facilite pas la tâche. Ils n'arrivent pas à bien préparer la reprise des cours pour leurs enfants.
J'achète les fournitures scolaires pour les enfants. 3 douzaines de cahiers reviennent à 30 000 francs. Rien que les cahiers à l'exception des autres articles. L'argent est insuffisant et les dépenses vont au-delà de nos prévisions.
Du côté des vendeurs, d'uniformes et autres fournitures scolaires, ils soulignent que la vente n'est pas bonne par rapport aux autres années. À cause du taux instable du dollar américain, les écoles vendent presque tout en ce moment pour les élèves et cela casse leur marché, explique-t-il la mort dans l'âme.
Nous vendons un mètre de tissu à 7 000 francs. Le tissu blanc revient à 3 000 francs. Nous ne vendons pas bien. Certaines écoles vendent des uniformes pour leurs élèves, ce qui ne facilite pas le marché. Aussi, le taux de dollar est très élevé. Nous n'arrivons pas à nous en sortir par rapport au prix d'achat et au prix de vente.
Les parents ont encore près de 2 semaines pour s'y préparer. Sauf changement, la rentrée scolaire est fixée au 10 septembre.
Et puis dans la ville de Béni, les responsables des écoles islamiques menacent de boycotter la rentrée scolaire prévue le 2 septembre prochain. Ils exigent le départ immédiat et sans condition du coordinateur des écoles conventionnées islamiques de la ville. Ce dernier, suspendu par le chef de l'entité islamique au Nord Kivu depuis 6 mois, refuserait de se conformer à cette décision. Dans une déclaration faite lundi, les responsables des écoles islamiques de Béni l'accusent notamment des retenues irrégulières sur les salaires des enseignants. L'un d'eux, Ibrahim Karamaya, explique dans cet extrait choisi par Marc Marofimbo.
En réaction des enquêtes du Proved à la demande du ministre national de l'EPST qui avait prouvé la gestion calamiteuse dans les ECI avec les griefs ci-après. Extorsion sur le salaire de certains enseignants nouvellement payés. Les ponctions de 10% sur les frais de fonctionnement alloués aux écoles primaires, les mouvements irréguliers de personnel administratif et enseignant, le népotisme avéré. Aussi longtemps que les concernés, Hassan Kapalalo, ne va pas se soumettre à la décision hiérarchique en remettant le pouvoir, nous, responsables des écoles conventionnées islamiques, allons boycotter la rentrée scolaire 2024-2025 dans la division éducationnelle Nord-Kivu-D.
Nos efforts pour avoir la réaction du coordinateur des écoles conventionnées islamiques de Béni incriminé n'ont pas abouti. En Ituri, plus de 80% d'enfants en âge scolaire hébergés dans les différents sites des déplacés ne vont pas à l'école depuis environ 7 ans. C'est le cas à Bounia, chef-lieu de la province. Le manque de moyens financiers des parents paupérisés par la guerre en est la principale cause. Conséquence, de nombreux enfants se sont déversés dans la rue pour chercher des moyens de survie. C'est en tout cas ce que renseigne l'association des déplacés victimes de la guerre en Ituri. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Des centaines de milliers d'enfants en âge scolaire sont privés de leur droit à l'éducation depuis environ 7 ans dans la province de l'Ituri en raison des conflits armés. C'est ce qu'a déclaré l'association des déplacés victimes de la guerre en Ituri lundi. C'était à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août de chaque année, à quelques jours seulement de la rentrée scolaire. Cependant, cette structure indique que certains parents déplacés éprouvent d'énormes difficultés pour réunir les moyens en vue de préparer la rentrée scolaire de leurs enfants, ce qui expose ces derniers au banditisme et à la délinquance juvénile. Certains ont abandonné l'école l'année dernière et se sont déversés dans la rue où ils font le petit commerce ou servent des garçons de course dans des boutiques et magasins au marché. Une situation qui mérite l'attention du gouvernement congolais et ses partenaires dont l'UNICEF pour assurer une meilleure scolarisation de ses enfants. Olivier Bavi.
L'année scolaire passée 2023-2024, plusieurs enfants déplacés ont été obligés d'abandonner les études. Leurs parents ont tout perdu. Leurs activités qui leur permettaient de prendre en charge les études de leurs enfants. Ces activités n'existent plus. Maintenant, c'est au gouvernement de les faire, car ça fait partie de sa responsabilité.
Cette structure demande au gouvernement d'accélérer le processus de paix pour permettre aux déplacés de retourner dans leur milieu d'origine. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Restant en Ituri, où environ 750 000 déplacés ont déjà regagné ces 2 dernières années leur village d'origine dans les territoires de Djougou, Irumu, Mambasa et Mahagi. Ces chiffres sont publiés par la Division provinciale des affaires humanitaires. Ce retour volontaire des déplacés est consécutif à l'amélioration de la sécurité par le gouvernement avec l'appui de la MONUSCO. Isaac Remoyope.
Ces retours volontaires des déplacés sont observés surtout dans les territoires d'Irumu. Plusieurs villages qui étaient vidés de leurs habitants sont repeuplés le long de l'axe Bunia-Komanda sur la route nationale numéro 27. Les activités économiques et agricoles ont repris, notamment au centre commercial de Marabo, Nyankunde et Irumu Centre. Le même décor est observé dans la chefferie de Walese-Vonkutu sur l'axe Komanda-Luna sur la route nationale numéro 4 à la limite avec le Nord Kivu et vers Boga aussi de Irumu. Dans les territoires de Maagi, plus de 100 000 déplacés ont regagné leur village dans les groupements Mitu Ame depuis 2023. Cependant, dans les territoires de Djougou et Mambasa, le retour des populations est encore timide à cause de l'activisme des groupes armés locaux et des rebelles des ADF. Des sources concordantes attribuent cet afflux de retournés aux opérations militaires et dialogues communautaires et avec les leaders des groupes armés qui ont abouti aux signatures des actes d'engagement de cessation des hostilités. Selon les humanitaires, plus de 1500 familles ont également bénéficié des projets, notamment des constructions des maisons dans le cadre de l'intégration locale. Les acteurs politique et de la société civile demande au gouvernement de poursuivre ses efforts de pacification pour permettre à tous les déplacés de rentrer chez eux. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, on assiste à un renforcement des positions du M23 en hommes et armement dans tout l'espace que ces rebelles soutenus par le Rwanda occupent. Le président du Parlement des jeunes dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, qui les dénonce, en veut pour preuve ces accrochages qui ont opposé à 5 reprises les rebelles du M23 aux combattants des groupes armés locaux la semaine dernière. C'est notamment dans les territoires de Rutshuru et Masisi. Chirac Mafula s'inquiète que ces incidents interviennent alors qu'un cessez-le-feu était censé être respecté par tous. On l'écoute dans ses propos recueillis par Bernard Denyangui.
Il y a toujours l'activisme des M23 qui continue à renforcer leur position dans les Rutshuru, dans les sud de Lubero, voire même dans les Nyiragongo et Masisi. Chose qui nous préoccupe, que notre gouvernement de la RDC puisse chercher des voies et moyens de réorganiser également notre armée et les ravitailler en logistique, vite pour que de n'importe quel moment, si l'ennemi pourrait lancer ses assauts contre les positions de nos vaillants phares du CV de Peuazalendo, que ces derniers soient outillés également des moyens nécessaires de contrer l'ennemi, qui continue toujours à conquérir des entités, tel est le cas de Ishasha, Nyamilima, Nyakakoma, dans les Binza de Nerema, et dans les Rutshuru toujours. Du côté Bwito, il y a eu des accrochages au courant de la semaine à brûlant des maisons de paysans populations. C'est pourquoi nous alertons et invitons notre gouvernement à prendre sérieux cette situation et stabiliser nos entités respectives.
Aux dernières nouvelles, nous apprenons que d'autres affrontements ont opposé hier mardi les rebelles du M23 aux combattants des groupes Léopard et FPP-AP à Katwa. C'est sur l'axe Kirumba-Kikuvo-Kamandi au sud du territoire de Lubero. Selon les sources locales, des rebelles du M23 ont lancé une attaque contre des positions des combattants Wazalendo sur les collines de Katwa et Kusimba à l'est de Kirumba. Les mêmes sources disent avoir observé des colonnes des fumées noires dans le ciel de Kirumba en raison des bombardements. L'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, confirme ces affrontements, mais ne donne aucun bilan pour le moment. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba Kabuya, a exigé hier mardi la tenue d'une audience publique contre le Rwanda. Il a fait cette requête à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha, en Tanzanie. Samuel Mbemba Kabuya a également fait savoir la demande de Kinshasa à cette Cour de constater les violations de droits des populations civiles dans l'est du pays, œuvre du Rwanda, qui ne devrait pas être placée dans les oubliettes, alors que des millions de Congolais en sont victimes. Il est dit au téléphone de Blaise Ndongala.
Ici, nous sommes à Arusha, siège de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, où nous sommes venus rappeler l'importance pour la Cour de traiter la requête qui a été introduite par la RDC en constatation de violations des droits des populations civiles par le Rwanda à l'est de la RDC. Nous avons insisté au niveau du greffe qu'il est important pour les institutions africaines et le cas échéant, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, de mériter la confiance que les pays africains, la RDC, font à leurs institutions. Nous avons demandé qu'il y ait des diligences nécessaires pour que ces dossiers soient traités en audience publique dans les meilleurs délais.
Notez que la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple est une cour continentale établie par les pays africains pour assurer la protection des droits de l'homme et de peuple. Y complète et renforce les fonctions de la Commission africaine de droits de l'homme et de peuple. Et à propos de la convention conclue entre la firme Activa et le Conseil supérieur de la magistrature sur l'assurance maladie et frais funéraires, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature CSM, Telesphore Ndouba, apporte des précisions. La prise en charge de l'assurance maladie et des frais funéraires concerne bien tous les magistrats de la RDC qui sont plus de 5000. Après la signature de cette convention, le Conseil supérieur de la magistrature est en séance préparatoire depuis hier mardi, en prélude à l'opération de recensement de tous les magistrats concernés. Selon les secrétaires permanents, il s'agit d'un partenariat public-privé et conformément à l'article 25 du statut des magistrats, c'est l'État qui s'occupe de ce traitement. Il versera ainsi les frais à l'assureur et celui-ci prendra en charge les magistrats, comme cela se fait partout au monde.
L'invité.
20 ans après les massacres de 166 réfugiés congolais Banyamulenge, principalement des femmes et des enfants du camp de Gatumba au Burundi, Maître Moïse Nyarugabo Moïse demande au gouvernement de prendre cette question en main. D'après lui, malgré les plaintes déposées en RDC, au Burundi et à la Haye, aucune enquête n'a été diligentée contre les auteurs et commanditaires de ces crimes. Moïse Nyarugabo, sénateur et député honoraire, est l'invité de ce journal. Il s'entretient avec Gisèle Cage.
Maître Moïse Nyarugabo, bonjour.
Bonjour madame.
Il y a exactement 20 ans depuis le massacre des civils Banyamulenge à Gatumba, plus de 150 civils qui avaient fui des combats dans le sud Kivu pour le Burundi avaient été tués ce jour-là dans la nuit du 13 août et 106 autres blessés. En guise de rappel, qu'est-ce qui s'est passé réellement cette nuit-là?
Cette triste nuit d'il y a 20 ans nous rappelle toujours des cris que nous avons entendus et qui sont vifs dans nos esprits. Un commando serait parti de chez nous, du Congo, a traversé vers le Burundi et a rejoint un groupe armé FNL Palpehutu du Burundi et ils ont attaqué un camp de réfugiés qui s'est trouvé à Gatumba au Burundi où ils ont tué exactement 166 personnes et blessé d'autres, et n'ont attaqué que le camp où logeaient les Banyamulenge. Le camp en face, les tentes d'en face, séparées d'une distance d'un terrain de football, n'ont pas été attaquées. Aux heures du matin, quand tous les services se sont intervenus, ils se sont rendus compte que le commando qui était venu du Congo est rentré au Congo parce qu'ils ont suivi les traces de la MONUC à l'époque et les autres services du Burundi. Ils ont vu que le commando est rentré au Congo et les combattants burundais se sont dispersés dans leurs collines. Et tout cela était précédé par le discours de haine et les tracts qui ont été jetés à Uvira pour dire qu'on ne voulait pas le retour des Banyamulenge en particulier au Congo.
Des plaintes pour génocide et crimes contre l'humanité avaient été déposées au Burundi, en RDC et à la Haye pour exiger des poursuites contre les auteurs de ces massacres, identifiés notamment comme étant des Forces Nationales des Libérations, FNL, un groupe Hutu. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des auteurs et commanditaires de ces crimes?
Madame, nous avons déposé des plaintes à ces trois endroits. Plusieurs plaintes ont été déposées au Congo. Il n'y a jamais eu ni réponse, ni ouverture des dossiers. D'ailleurs, les officiels n'en parlent jamais. C'est pas leur affaire. Jusque là, en tout cas. J'ai appris que la ministre des Droits humains a fait une promesse que le gouvernement va s'en occuper. Alors, nous attendons. Au Burundi, nous avons saisi la justice. Au nom d'un collectif d'avocats, personnellement, j'ai été reçu par le procureur général de Bujumbura. Un dossier a été ouvert. Le numéro nous a été communiqué. Ceux qui ont revendiqué ce massacre, notamment Agathon Rwasa et Abimana Pasteur, ont été convoqués. Le deuxième, là, Abimana, a été entendu, interrogé. Et le jour où Agathon Rwasa devait être entendu, il y a eu du désordre et plus rien jusqu'aujourd'hui. Nous avons déposé plusieurs éléments à la haie, mais là non plus, aucune réaction. Donc, tous ont choisi le silence jusqu'aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un jour les auteurs et commanditaires de ces crimes répondent de leurs actes?
La première chose à faire, c'est que notre propre gouvernement, c'est lui qui doit prendre le devant. Il suffit d'ouvrir une enquête et de faire des recherches et de découvrir qui sont les auteurs et les sanctionner. Mais ce qui nous inquiète, c'est autant le silence par rapport à ceux qui sont morts à Gatumba, mais aussi le même plan qui continue contre les survivants. Lorsque nous voyons comment les villages de Banyamulenge sont attaqués, le discours de haine continue, il est même encensé, encouragé, financé. Comment une nébuleuse de groupes armés est organisée, financée, et les actes qui sont posés de cannibalisme, toute la déshumanisation qui continue contre les Banyamulenge et les Tutsis en général, qui sont tués, brûlés, mangés, la chair est mangée, toujours au nom du faciès. Et là, mon gouvernement ne dit rien. C'est inacceptable. Mais la deuxième chose, c'est la réconciliation. La vraie, il y a une réconciliation des slogans, une cohabitation qui sont dans les bouches des politiques, mais c'est des discours vides sur le terrain. C'est autre chose qui se fait. Il faut une vraie réconciliation de cœur et des esprits, mais aussi faire régner la loi et l'état de droit.
Maître Moïse Nyarugabo, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.